de l'inertie des impôts sur la propriété issus du XVIIIe siècle. Venons-en maintenant aux impôts annuels sur la propriété, tels qu'ils ont été expérimentés historiquement. On peut distinguer deux groupes de pays. Dans un premier groupe, qui comprend notamment les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, l'idée d'un impôt annuel progressif sur la propriété a longtemps suscité une forte résistance de la part des propriétaires. Si bien que les systèmes de taxation proportionnelle du patrimoine, hérités du XVIIIe et du XIXe siècle, n'ont jamais été véritablement réformés. À l'inverse, les pays d'Europe germanique et nordique, en particulier l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Suède, la Norvège et le Danemark, c'est-à-dire ces mêmes pays qui ont introduit le partage du pouvoir entre actionnaires et salariés, ont instauré dès les années 1890-1910 un impôt progressif annuel sur le patrimoine, le plus souvent en même temps que la création de l'impôt progressif sur le revenu et sur les successions. Commençons par le premier groupe, et en particulier les États-Unis. Si les propositions de Henry George et Wei Long n'ont jamais été appliquées, il n'en reste pas moins que l'impôt sur la propriété a joué un rôle central dans l'histoire fiscale du pays, sous la forme de la « property tax », qui constitue toujours aujourd'hui l'une des principales recettes des États et des communes. De manière générale, l'impôt sur la propriété peut avoir des significations très différentes suivant la façon dont il est conçu. S'il est prélevé avec un taux faible et proportionnel sur toutes les propriétés, quelle que soit leur ampleur, alors il s'agit d'un impôt relativement peu menaçant pour les détenteurs de patrimoines importants, qui dans ce cas peuvent même souvent le préférer à l'impôt sur le revenu. C'est le cas par exemple de la property tax états-unienne, ainsi que du système de contribution foncière établi sous la Révolution française, qui a constitué tout au long du XIXe siècle l'impôt idéal aux yeux des propriétaires français, léger, peu inquisitorial et favorisant l'accumulation et la concentration des fortunes, et la principale recette de l'État avec les droits de succession jusqu'à la Première Guerre mondiale, ainsi que nous l'avons déjà noté. L'équivalent aux États-Unis était la property tax, également mise en place à la fin du XVIIIe siècle, et qui, comme en France, constituait le principal impôt direct états-unien au XIXe siècle et au début du XXe, avec la particularité qu'il était perçu par les États fédérés et les communes, et non par l'État fédéral, qui avait peu de poids outre-Atlantique jusqu'à la création de l'impôt fédéral sur le revenu en 1913. En France, la contribution foncière, rebaptisée taxe foncière, a cessé de financer l'État central et est devenu un impôt local à la suite de la création de l'impôt sur le revenu en 1914. Précisons que la taxe foncière, comme la property tax, qui existe toujours en ce début de XXIe siècle comme impôt locaux, élève des recettes fiscales très substantielles en France comme aux États-Unis, entre 2 et 2,5% du revenu national dans les deux pays dans les années 2010-2020, impose non seulement la détention de logements, mais également les biens professionnels utilisés comme capital productif par les entreprises telles que les bureaux, terrains, entrepôts, etc. La différence centrale avec un impôt progressif sur le patrimoine est que la taxe foncière comme la property tax ont toujours été strictement proportionnelles. Autrement dit, le taux prélevé est le même que l'on possède une maison ou des centaines d'immeubles. Le fait que les biens professionnels sont imposés au niveau de l'entreprise qui les possède et les utilise, ou les loue à d'autres utilisateurs, par exemple dans le cas de logement, et non pas au niveau de l'actionnaire qui possède l'entreprise, implique également qu'il n'est pas nécessaire pour administrer un tel impôt de rassembler l'ensemble des propriétés d'une même personne au sein d'une même déclaration fiscale, ce qui est rassurant pour les multipropriétaires qui, sinon, pourraient s'inquiéter que l'impôt devienne très vite progressif et non plus proportionnel. La nature locale de l'imposition constitue une garantie supplémentaire contre toute velléité redistributrice excessive. On notera cependant que la taxe foncière, comme la property tax, repose bien dans leur essence sur une philosophie fiscale fondée sur l'imposition du patrimoine en tant que tel, indépendamment de tout revenu. Par exemple, Personne n'a jamais proposé ouvertement d'exonérer de taxes foncières ou de property tax un propriétaire qui détiendrait des dizaines d'immeubles, de maisons, de terrains et d'entrepôts, au motif qu'il n'en tirerait aucun revenu, faute de les louer ou de les exploiter. Même s'il s'agit d'un consensus relativement confus, d'autant plus que la connaissance du système fiscal et des revenus et patrimoines des uns et des autres est souvent très imparfaite, il existe un certain consensus pour considérer qu'une telle personne devrait acquitter la taxe foncière ou la property tax, quitte à se défaire d'une partie de ses propriétés et à les céder à d'autres personnes qui sauront mieux les utiliser. Autrement dit, le principe est bien celui de l'imposition de la propriété, en tant qu'elle permet d'apprécier la véritable capacité contributive du contribuable de façon plus durable et moins manipulable que le revenu. La seconde différence essentielle avec un impôt général et progressif sur la propriété, incluant idéalement toutes les formes de propriété, est que la taxe foncière et la property tax exonèrent un grand nombre d'actifs, et notamment les actifs financiers, qui se trouvent précisément constitués la majeure partie des patrimoines les plus importants. Il serait certes exagéré de dire que la taxe foncière et la property tax frappent uniquement l'immobilier résidentiel, les bureaux, terrains, entrepôts et autres biens immobiliers et fonciers détenus par les entreprises sont également soumis à l'impôt, et les détenteurs d'actions de ces entreprises le sont donc également à travers elles. L'imposition des actifs financiers qui en résulte est cependant beaucoup plus faible que celle de l'immobilier. D'une part, parce que les actifs financiers investis à l'étranger ou en rente d'État sont totalement exonérés, et d'autre part, parce que de nombreux éléments d'actifs investis dans les entreprises domestiques échappent pour tout ou partie à l'impôt, en particulier les machines et équipements, ainsi que les biens immatériels tels que les brevets. Cet ensemble incohérent ne résulte pas d'un plan préconçu. Il est le fruit de processus historiques particuliers et de mobilisations politico-idéologiques spécifiques autour de la question de l'impôt sur la propriété ou de l'absence de telle mobilisation. Il faut d'ailleurs préciser que la property tax états-unienne, comme son nom l'indique, a parfois été plus ambitieuse que la taxe foncière française. De façon générale, il existe de grandes variations dans les différentes formes de property tax appliquées aux États-Unis. Suivant les États et communes, la property tax peut frapper non seulement la real property, c'est-à-dire les biens fonciers et immobiliers, terrains, maisons, immeubles, bureaux, entrepôts, etc., mais également parfois la personal property, c'est-à-dire les biens mobiliers, meubles, meublants, liquidités, y compris actifs financiers de toute nature. La situation actuellement la plus courante est que seule la real property soit concernée, mais il n'en a pas toujours été ainsi. De ce point de vue, les très vifs débats qui se déroulent à Boston à la fin du XIXe siècle et qui ont récemment été étudiés par Noam Magor sont particulièrement intéressants. À l'époque, la property tax appliquée dans la capitale du Massachusetts, où résidait une partie importante de la haute aristocratie financière et industrielle du pays, frappait à la fois la real et la personal property, et notamment les portefeuilles financiers détenus par l'élite bostonienne dans le reste du pays et à l'étranger. Les riches propriétaires de Boston étaient vent debout contre cette imposition. Ils insistaient notamment sur le fait qu'ils acquittaient déjà des impôts fort lourds sur les territoires où leurs capitaux étaient investis, et ils réclamaient que la property tax se limite à l'immobilier, envisagé comme un indice peu intrusif de la capacité contributive, comme cela se faisait en Europe et notamment en France. Ils convoquaient à l'appui de leurs revendications le soutien des économistes et fiscalistes des universités voisines, et notamment de Harvard, qui vantait la sagesse des fiscalités européennes. Thomas Hills, Chief Tax Assessor de la ville de Boston dans les années 1870-1900, ne l'entendait pas ainsi. Il publia en 1875 un premier mémoire montrant que l'immobilier ne représentait qu'une fraction minuscule des propriétés des plus riches bostoniens et que l'exonération des portefeuilles financiers conduirait à une énorme perte de recettes, d'autant plus dommageable que la ville était en pleine expansion, avec de nouvelles vagues d'immigrants italiens et irlandais peuplant les faubourgs, où de nombreux investissements publics étaient nécessaires. Ces arguments et les rapports de force politique du moment conduisirent au maintien d'un impôt général sur la propriété. Mais le débat se poursuivit dans les années 1880-1890 et les propriétaires obtinrent finalement gain de cause au cours des années 1900-1910, avec une suppression graduelle des éléments de personal property, et en particulier des exonérations de plus en plus nombreuses des actifs financiers, de la base de la property tax bostonienne, qui depuis 1915 s'est limitée à la real property. Ces débats sont d'autant plus intéressants qu'ils illustrent la multiplicité des points de bifurcation et des trajectoires possibles. En particulier, un élément central de ces discussions était l'absence de coopération entre État et collectivités locales pour se transmettre les informations sur les possessions des uns et des autres. Pour dépasser ces contradictions, une bonne solution aurait pu être, et pourrait être à l'avenir, de coordonner l'impôt sur la propriété au niveau fédéral et de le transformer en véritable impôt progressif sur le patrimoine net individuel. La voie qui fut suivie en 1913-1916 aux États-Unis fut différente. Le gouvernement fédéral se concentra sur le développement d'un impôt fédéral sur le revenu et sur le patrimoine hérité, alors que l'impôt annuel sur la propriété, le plus souvent limité à la propriété immobilière et de façon strictement proportionnelle, resta l'affaire des États et des communes. Au final, la property tax états-unienne, comme la taxe foncière française, qui n'ont toutes deux jamais fait l'objet d'une réforme globale depuis la fin du XVIIIe siècle, donc depuis l'âge propriétariste et censitaire, constituent en ce début de XXIe siècle deux impôts particulièrement régressifs, puisque les actifs et passifs financiers sont purement et simplement ignorés. Supposons par exemple que la property tax, ou la taxe foncière à acquitter pour un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros ou dollars, soit de 3 000 euros, soit 1% de la valeur du bien. Considérons le cas d'une personne qui serait endettée à hauteur de 270 000 euros, si bien que son patrimoine net n'est en réalité que de 30 000 euros. Pour elle, le taux d'imposition est donc de 10% de son patrimoine net, 3 000 euros d'impôt pour 30 000 euros de patrimoine net. À l'inverse, considérons une personne qui détiendrait, en plus de ce même bien immobilier de 300 000 euros, un portefeuille financier de 2,7 millions d'euros, si bien que son patrimoine net serait de 3 millions d'euros. Avec le système de taxes foncières, ou de property tax actuellement appliqué en France ou aux États-Unis, cette personne acquitterait le même impôt de 3 000 euros que la première, soit dans son cas un taux de 0,1% de son patrimoine, 3 000 euros d'impôt pour 3 millions de patrimoine. Une telle réalité est très difficile à justifier et fait partie des éléments qui peuvent contribuer à miner le consentement fiscal et à nourrir une certaine désillusion face à la possibilité d'une économie juste. Il est d'ailleurs frappant que les enquêtes menées à ce sujet montrent que les personnes interrogées plébiscitent l'idée d'un système fiscal mixte fondé à la fois sur le revenu annuel et sur le patrimoine, indépendamment de la nature immobilière ou financière de ce dernier, question qui ne joue assez logiquement aucun rôle dans ses perceptions. La seule justification possible, relativement nihiliste et factuellement fausse, pour l'exonération des actifs et passifs financiers, est que ces derniers peuvent entièrement échapper à toute imposition, et que nous n'avons d'autre choix que de les exonérer entièrement. En réalité, l'imposition des intérêts et dividendes fait depuis longtemps l'objet de transmissions automatiques entre institutions financières et administrations fiscales au niveau national. Et rien n'empêcherait que le système s'applique aux actifs financiers eux-mêmes, et pas seulement aux revenus qui en sont issus, et soit étendu à l'échelon international par une modification des accords en vigueur concernant la circulation des capitaux. Rappelons également que les impôts exceptionnels sur le patrimoine privé mis en place avec succès en Allemagne, au Japon et dans de nombreux pays à l'issue du Second Conflit mondial s'appliquaient évidemment aux actifs financiers. Il aurait semblé totalement incongru qu'il en aille autrement, puisque l'objectif était précisément de mettre à contribution les plus aisés.